Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur les ondes de VOA Afrique, le monde aujourd'hui. Édition du mardi 26 novembre 2014, au micro Bagassi Koura et Anne Alverson. Bonjour Anne.
Bonjour Bagassi, bonjour à tous.
Au sommaire ce matin, près de 40 personnes ont été tuées à Maïdougouri dans le sud-est du Nigeria dans deux attaques terroristes.
Il n'y aura pas de limitation du nombre de mandats présidentiels au Togo. Déclaration hier du président Fornia Simbe en visite au Ghana.
Liberté provisoire pour 12 personnes écrouées au Niger dans un trafic présumé de bébés. Mais 6 autres, dont l'épouse de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Ama Amadou, n'ont pas bénéficié de cette mesure.
70 millions de dollars près de la Banque mondiale à la Côte d'Ivoire pour améliorer ses services de santé et aussi pour prévenir l'épidémie d'Ebola dans ce pays.
En Côte d'Ivoire même, manifestation hier des vendeurs d'eau à Abidjan.
Si le problème du gouvernement, donc, c'est le ramassage des obus, eh bien, il y a les démobilisés de guerre. Ils sont actuellement au nombre de 10 000. Ils ont été intéressés au ramassage des déchets, donc, du plastique, en vue de leur recyclage.
Sans oublier nos pages sport et musique en fin d'émission. Mais avant, le journal.
Près de 40 personnes ont été tuées lorsque deux femmes kamikazes ont attaqué un marché hier à Maïdougouri, dans le sud-est du Nigeria. Des témoins rapportent que la première femme kamikaze a fait exploser sa bombe, tuant au moins 3 personnes. Et alors que la foule était rassemblée sur les lieux de l'explosion, la seconde bombe a explosé.
Le Nigeria a dévalué mardi sa monnaie qui atteint un niveau historiquement bas contre le dollar. Les réserves de devises étrangères sont affectées par la baisse des prix du pétrole, Eddie Sango.
La mesure a été annoncée par Godwin Emefiele, gouverneur de la Banque centrale du Nigeria. Il a précisé que le nouveau taux cible est fixé à 168 naira pour un dollar qui s'est changé auparavant à près de 180 naira. Première économie d'Afrique, le Nigeria tire environ 70% de ses revenus du pétrole. Les prix du brut a chuté à 78 dollars les barils contre 100 dollars il y a 2 mois. Avec cette baisse du prix de l'or noir, les réserves d'échange ont énormément baissé. Cette dévaluation de la monnaie, 3 mois avant les élections générales de février 2015, pourrait être mal perçue par les proches du président Goodluck Jonathan. Candidat à sa réélection, le leader nigérian est déjà très critiqué pour sa gestion de l'insurrection islamiste des Boko Haram.
Le président du Togo, Fornia Simbe, en visite au Ghana, a exclu hier de modifier la constitution pour limiter le nombre de mandats présidentiels. Morgane Guiriec.
Concernant sa possible candidature en 2015 qui suscite de vives tensions au Togo, Fornia Simbe a dit, lors d'une conférence de presse à Accra, vouloir réserver la primeur à ses compatriotes au cas où son parti lui ferait confiance. Il a ajouté que la constitution en vigueur sera respectée. Selon la loi fondamentale du Togo, le nombre de mandats n'est pas limité, si bien que rien n'empêche le chef de l'État togolais de briguer un troisième mandat. Il a remporté en 2005 et 2010 les scrutins présidentiels dont les résultats ont été contestés par l'opposition. Les opposants et leur chef de file, Jean-Pierre Fabre, réclament depuis plusieurs mois des réformes sur la limitation des mandats présidentiels et le mode de scrutin avant la présidentielle de 2015. Ces exigences ont déjà été rejetées par le Parlement où le parti au pouvoir détient la majorité.
Dans l'est de la Sierra Leone, des agents impliqués dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola à Kenema ont été licenciés pour avoir abandonné des corps dans les rues. Henri Francisca.
Des membres des équipes chargées d'enterrer les corps ont observé lundi une grève pour réclamer le paiement de primes de risque, un peu plus de 100 dollars américains. Dans ce mouvement d'humeur, selon l'AFP, certains grévistes ont transporté les cadavres d'une morgue pour les abandonner dans les rues de Kenema. Palo Conte, chef du Centre national de lutte contre l'Ebola, a donc décidé de solder les comptes. Il a promis de les payer jusqu'à ce vendredi et les a licenciés. Ils seront remplacés par des militaires qui travailleront avec la Croix-Rouge pour mener les opérations. Avec 1267 morts sur plus de 6000 cas recensés, la Sierra Leone est le deuxième pays le plus affecté par le virus Ebola.
La Banque mondiale a annoncé qu'elle accordait un crédit de 70 millions de dollars à la Côte d'Ivoire pour aider ce pays à améliorer ses services de santé et à prévenir l'épidémie d'Ebola, selon un communiqué mardi. Ce prêt à taux zéro est fourni par l'Association internationale de développement, l'organe de la Banque mondiale qui prête aux pays les plus pauvres.
Des experts des Nations Unies ont recommandé au Conseil de sécurité de décréter des sanctions ciblées contre l'ex-président centrafricain Michel Djotodia, accusé de torpiller la transition politique à Bangui. Selon des diplomates, Djotodia est la principale personnalité figurant sur une liste d'une quinzaine de noms de cibles potentielles de sanctions qui comprend également des chefs militaires. Il s'agit pour l'instant de propositions et aucune décision n'a été prise, ont souligné des diplomates.
Les membres du Conseil de sécurité ont condamné dans les termes les plus vifs, selon un communiqué hier soir, les massacres perpétrés contre des civils le 20 novembre près de Beni, au nord Kivu. L'ONU précise que ces attaques ont augmenté à plus de 200 le nombre de civils tués depuis la mi-octobre dans cette région. Le Conseil de sécurité a également condamné les attaques ciblées contre des casques bleus de la MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC.
Au Kenya, des centaines de manifestants ont marché hier à Nairobi pour dénoncer l'insécurité causée par les militants islamistes somaliens d'Al-Shabaab. Les précisions de Félix Yepassis Zembrou.
Portant des cercueils et des croix rouges, les protestataires se sont regroupés dans le centre de Nairobi pour exiger que le gouvernement renforce la sécurité et les mesures contre Al-Shabaab. Des syndicats de professeurs et médecins ont conseillé à leurs membres de quitter le nord-est du pays. Une mesure jugée non positive car plus de 16 000 fonctionnaires kényans travaillent dans la région. Samedi, un commando islamiste avait arrêté un bus près de Mandera. Après avoir trié les passagers, les non-musulmans ont été abattus d'une balle dans la tête. 22 des 28 victimes étaient des professeurs, 3 autres des médecins. Le groupe Al-Shabaab a mené une centaine d'attaques au Kenya depuis que Nairobi a envoyé en 2011 des soldats en Somalie pour combattre les islamistes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au moins 23 personnes ont été tuées lorsque des avions de combat syriens ont mené une série d'attaques à Raqqa, la capitale autoproclamée du groupe État islamique. L'Observatoire syrien pour les droits de l'homme basé en Grande-Bretagne, qui rapporte cette information, précise que les frappes de mardi ont touché une zone industrielle et un marché populaire à proximité du musée de la ville.
Le plus grand exportateur de pétrole au monde, l'Arabie Saoudite, et d'autres grands producteurs ne sont pas parvenus à un accord pour réduire la production comme un moyen de mettre un terme à la forte baisse des prix du pétrole. Le ministre saoudien du pétrole, Ali Al-Naimi, a rencontré mardi à Vienne des représentants du Venezuela, de la Russie et du Mexique avant la réunion de demain de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole.
Le président Barack Obama a fermement condamné mardi les violences qui ont eu lieu à Ferguson dans le Missouri après la décision d'un jury populaire de ne pas poursuivre un policier blanc responsable de la mort d'un jeune noir. Brûler des bâtiments, mettre le feu à des voitures, détruire des biens, mettre des gens en danger, il n'y a aucune excuse à cela, ce sont des actes criminels, a déclaré M. Obama dans un discours à Chicago. Je n'ai aucune sympathie pour ceux qui détruisent leur propre communauté, a-t-il ajouté.
Et pendant ce temps, le policier américain blanc qui a tué début août un jeune noir à Ferguson a expliqué hier sur la chaîne ABC qu'il avait bonne conscience et qu'il aurait agi de la même manière avec un jeune blanc. S'exprimant pour la première fois publiquement depuis le drame, Darrell Wilson a expliqué que le 9 août, il avait eu peur d'être tué avant d'utiliser pour la première fois son arme et de tirer 12 balles en direction de Michael Brown, âgé de 18 ans. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique au micro Bagassi Koura. On enchaîne sur la partie magazine de notre émission. Retour sur la démission hier du ministre de la Culture et du Tourisme du Burkina Faso sous pression populaire. Adama Sagnon aura donc tenu seulement 24 heures au gouvernement. Au micro de Morgane Guiriek, il explique son geste.
Lorsque j'ai pris fonction, je me suis rendu compte qu'il y avait des manifestations au niveau de mon département ministériel, à savoir le ministère de la Culture et du Tourisme. Et en outre, il y a une partie de la société civile qui avait demandé aussi ma démission. Et comme je me suis rendu compte que les manifestations perduraient, j'ai décidé de démissionner pour l'harmonie de l'équipe gouvernementale.
Donc vous ne serez resté que 24 heures à ce poste de ministre de la Culture et du Tourisme.
Quel est votre sentiment?
Je voulais privilégier vraiment l'apaisement, la philosophie qui a sous-tendu l'équipe de transition. Parce que le peuple burkinabé a souffert. Il a payé un lourd tribut de cette insurrection. Il ne faudrait pas que, de par ma personne, il y ait encore du discrédit sur l'équipe gouvernementale. J'ai privilégié l'équipe dans son entièreté. Lorsque le peuple ne veut pas de vous, moi, j'ai privilégié le peuple.
Alors, vous êtes accusé d'avoir entravé le dossier Norbert Zongo, journaliste d'investigation assassiné en 1998. Et c'est notamment ce qui a provoqué les manifestations. Qu'avez-vous à répondre?
C'est un prétexte. Il y a certains juristes qui ont profité du fait que beaucoup de citoyens burkinabés méconnaissent les rouages du système judiciaire pour instrumentaliser ce peuple. En réalité, je n'ai aucunement entravé les bons déroulements de ce dossier-là. Dans la mesure où ce n'était pas moi qui ai ouvert le dossier, lorsque je suis venu, j'ai été affecté à Ouagadougou. En tant que procureur, j'étais le troisième procureur à connaître ce dossier-là. Moi, j'ai pris les réquisitions de non-lieu parce que je n'ai rien trouvé dans ce dossier tendant à culpabiliser X ou Y. Et le juge d'instruction qui n'était pas lié par mes réquisitions m'a néanmoins suivi. Donc, a rendu une ordonnance au sein de non-lieu. Et la chambre d'accusation, à son tour, a pris un arrêt confirmatif de l'ordonnance du juge d'instruction. Et la famille de ce Norbert Zongo aurait pu aller encore devant la cour de cassation. Ils n'ont pas fait. Pour moi, c'est l'arrêt de la chambre d'accusation qui devait prévaloir désormais. Je ne sais pas pourquoi, moi, on m'accuse alors que le dossier n'a fait que transité par les soins.
Si vous aviez un message pour les Burkinabés aujourd'hui, quel serait-il?
Mon message, quand on rouvre ce dossier, et qui est un autre regard, il y a eu trois autres procureurs qui m'ont succédé. Donc on aurait pu apprécier par le procureur pour avoir un autre regard, ou bien essayer de composer des juges sur le plan international pour apprécier ce dossier. Parce que ça me tient à cœur. Je traîne ce dossier-là comme un boulet à mes pieds et ça me fait mal. Ça fait mal à ma famille, ça fait mal à tout le monde.
Voilà, c'était donc Adama Sagnon, ministre de la communication et du tourisme, démissionnaire donc au Burkina Faso.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Direction le Mali, où des organisations de défense des droits humains ont déposé une plainte au nom de 80 survivantes de viols et de violences sexuelles durant l'occupation du nord du pays par les groupes armés. Plus de 2000 femmes et filles de la région ont été victimes de viols et de mariages forcés pendant cette période. Les précisions de Félix Yepassis Zembrou.
Lorsque Gao et Tombouctou ont été investis par les islamistes, des centaines de femmes et de filles ont été violées, parfois par plusieurs hommes. Les djihadistes ont imposé le mariage forcé dans les villes et villages sous leur contrôle. Morta Mariko, un militant malien des droits humains.
C'est des gens qui ont été dénoncés par la population, qui ont été dénoncés par certaines victimes, qui ont dit, moi je reconnais ce monsieur-là, c'est celui-là qui est rentré chez moi, c'est celui-là qui a violé ma fille. Donc si vous libérez ces personnes-là, qui vont se retrouver face à face avec les victimes, donc, vous mettez la vie des victimes en danger.
Les groupes de défense des droits humains et les associations locales ont identifié au moins 2700 survivantes des viols et des violences sexuelles entre mars 2013 et début 2013 à Gao, Kidal et Tombouctou. À ce jour, peu a été fait pour aider ces femmes. Il n'y a pas de tribunaux à proprement parler dans le nord Mali et les enquêtes y sont lentes, déplore Mokhtar Mariko.
Mais malheureusement, ces plaintes n'ont pas pu aboutir parce que le parquet de la commune 3 a envoyé les dossiers à la brigade d'investigation judiciaire de police. Et là, les dossiers sont en train de dormir dans les tiroirs.
Avec l'appui des ONG maliennes, de l'Association malienne des droits de l'homme et la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, Mariko représente 80 survivantes, dont la plus âgée a 60 ans et la plus jeune 7. Alors que beaucoup de femmes ont fui, d'autres sont restées sur place. Celles qui sont de retour sont obligées de côtoyer leurs agresseurs qui ont été libérés dans les échanges de prisonniers entre le gouvernement malien et les groupes armés, explique Mariam Sek de l'ONG Sini Sanouman.
Si elles portent plainte, il se peut qu'il y ait un problème après. Problème pourquoi? Est-ce que l'agresseur X est auprès d'elle ou bien est-ce que l'agresseur est loin d'elle? Et si l'agresseur est près d'elle, il pourrait y avoir un problème sécuritaire.
Son ONG a apporté une assistance médicale aux survivantes, leur a fourni des lieux d'accueil et les moyens de formuler leurs plaintes. Beaucoup de femmes connaissent leurs agresseurs, mais ne peuvent les identifier que par les vêtements qu'ils portaient ou la langue qu'ils parlaient, souligne l'activiste Mokhtar Mariko.
Il n'y a aucune action conséquente qui a été posée par l'État en faveur des femmes et des filles qui ont été violées. Donc, certaines femmes ont perdu leur mari parce qu'elles ont été violées, les maris ne veulent plus d'elles. Donc certaines femmes sont tombées malades parce qu'elles ont des conséquences abominables sur leur corps. Il y a eu des enfants aussi qui sont nés au nord, qui n'ont pas de père.
Certaines femmes conseillent à leurs filles de ne révéler à personne les souffrances endurées sous l'occupation. En aidant ces survivantes à porter plainte, les militants des droits humains espèrent qu'un plus grand nombre de victimes de viol auront le courage de saisir la justice.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Au Niger, 12 personnes écrouées dans un trafic présumé de bébés ont été remises en liberté provisoire hier. Mais 6 personnes, dont l'épouse de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Ama Amadou, n'ont pas bénéficié de cette mesure. Idriss Fall a joint Maître Souley Oumarou, il est avocat à Niamey.
Un événement extraordinaire. La plupart des femmes et des personnes incriminées de cette rocambolesque affaire ont été libérées, à l'exception naturellement de Mme Ama Amadou, qui était l'une des premières à être arrêtée depuis le mois de juin. Il y a également le colonel de la garde nationale et son épouse qui vient d'être arrêtée il y a 2 semaines, qui est également garde de prison parce que l'instruction vient de commencer à en ce qui le concerne et qu'il n'a introduit aucune demande de liberté provisoire. Toutes les personnes, femmes et hommes, ont été mis en liberté provisoire. Ce que Mme Hama a demandé et qui a elle lieu, cela a été refusé. Nous avons toujours dit et soutenu que l'objectif final était de chasser Hama Amadou comme un malpropre de l'Assemblée nationale. C'est ce qui a été donc consommé à l'Assemblée. Hama contre lequel un mandat d'arrêt court toujours.
Et pourquoi? Qu'est-ce que les autorités judiciaires affirment pour refuser la liberté provisoire?
C'est au juge qu'il faut demander cela, au monsieur la justice. Parce que quand même, c'est extraordinaire que c'est une vingtaine de personnes, que c'est 2 ou 4 personnes qui ne sont pas libérées. Et au premier chef, la femme du président de l'Assemblée nationale, alors qu'un de ses collègues qui est au gouvernement, qui a été arrêté à peine 1 mois ou 2 mois, vient d'être élargi ainsi que son épouse pour des faits de même nature et de même conséquences juridiques.
Est-ce que l'ancien ministre de l'Agriculture, Abdoul Labo, a été remis en liberté provisoire lui aussi?
Affirmatif, je vous ai dit que pratiquement 90% des personnes arrêtées ont été mises en liberté provisoire, à l'exception de Mme Hama Amadou, et je pense de la femme, donc du colonel, je vous en parlais lui-même, et semble-t-il peut-être d'un officier de police. Mais tout le monde est dehors, sauf ma cliente, naturellement, pour laquelle je suis vraiment désolé qu'on ait buté un obstacle qui n'a rien d'un obstacle juridique.
Maître Souley Oumarou, avocat de l'épouse de Hama Amadou à Niamey.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Voilà, venons-en maintenant à cette manifestation de vendeurs d'eau hier à Abidjan, Côte d'Ivoire. Environ 200 vendeurs d'eau s'étaient rassemblés pour dénoncer l'interdiction de mini-doses d'eau vendues dans des sachets en plastique. Gervais Ekoun, président du syndicat des producteurs d'eau agréés de Côte d'Ivoire, explique ce qui s'est passé et annonce que la mesure prise par le gouvernement ivoirien va entraîner la perte de milliers d'emplois.
Nous sommes allés faire un shooting pacifique que nous avons déjà annoncé. Les populations, les producteurs d'eau, leurs employés étaient rassemblés. D'autres étaient en cours donc pour arriver sur le lieu de rassemblement quand ils ont commencé à lancer les grenades lacrymogènes.
Qu'est-ce que vous revendiquez exactement?
Un décret a été pris par le chef de l'État pour interdire le plastique. Or, il se trouve que nous, structures qui conditionnons de l'eau dans les sachets de 15 cm sur 15, nous utilisons comme matière première, n'est-ce pas, les sachets plastiques. Nous avons donc posé notre préoccupation pour dire attention, si cette mesure-là rentre en vigueur, nos activités vont cesser d'exister. Et nous avons argumenté pour dire que dans ces cas de figure, il y a le côté environnemental, mais il y a le côté économique et le côté social qu'il faut prendre en compte pour la mise en œuvre de ce décret.
Alors, vous dénoncez la mesure d'interdiction des sachets en plastique. Quelles sont vos propositions concrètes au gouvernement ivoirien?
Nous sommes tous d'accord pour aller à une économie verte, à respecter notre environnement en acceptant l'interdiction des sachets plastiques. Mais nous avons souhaité travailler en sachets plastiques biodégradables. Si l'État veut appliquer de façon drastique ce décret, c'est plus de 184 sociétés. Pour ce qui concerne ceux qui conditionnent l'eau, qui vont fermer, c'est 1840 employés directs qui sont au chômage et plus de 11 200 emplois indirects. Pour ce qui concerne seulement que notre secteur d'activité, je ne parle pas donc des autres utilisateurs. Si le problème du gouvernement donc c'est le ramassage des ordures, eh bien, il y a les démobilisés de guerre. Ils sont actuellement au nombre de 10 000. Ils ont été intéressés au ramassage des déchets donc, du plastique en vue de leur recyclage. Le deuxième problème, c'est d'intéresser, de sensibiliser les populations pour un nouveau comportement à avoir. Le troisième aspect, c'est de donner une valeur économique aux sachets. Ce qui a été trouvé dans un accord cadre signé entre trois ministères, le ministère de l'Environnement, le ministère du Commerce et le ministère de l'Industrie, y compris les démobilisés et la Chambre de Commerce libanaise. Les gros industriels ont accepté de racheter tout ce qui est déchets du plastique. Nous pensons aisément que, en le faisant, c'est beaucoup d'emplois, en plus de ceux qui existent déjà, qui vont être créés. Donc, du coup, le ramassage des ordures, le rachat des déchets, la sensibilisation réglerait le problème environnemental pour ce qui concerne la pollution des sachets plastiques dans notre pays.
Gervais Ekoun, président du syndicat des producteurs d'eau agréée de Côte d'Ivoire, joint à Abidjan par Jean-Roger Billon.
Roger Moutou avec vous. Dans Washington Forum, c'est jeudi, l'impact de la musique dans les sociétés africaines. Laissez-nous vos commentaires sur la page de VOA Afrique. Rendez-vous c'est jeudi à 19h temps universel sur la VOA.
Écoutez VOA Afrique, c'est l'heure des sports et j'accueille Timothée Donangmaï. En football européen, suite de la cinquième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions ce soir.
Huit matchs au programme ce soir, notamment Atlético Olympiakos, Bâle Real Madrid, Zenit Benfica, Leverkusen Monaco, Arsenal Dortmund et Anderlecht Galatasaray.
Et quelques clubs ont rejoint hier en huitième de finale le Real Madrid Barcelone, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Bayern et le FC Porto.
C'est le cas de Shakhtar Donetsk, défait 1-0 par Athletic Bilbao, mais qui avance à la faveur de la victoire de Porto 3-0 contre Bate Borisov. Sporting avance aussi après avoir défait Maribor 3-1. Chelsea a écrasé Schalke 5-0 pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Grâce à sa victoire par 3-2 contre le Bayern, Manchester City garde espoir d'accéder en huitièmes de finale. Match nul entre la Roma et CSKA à Moscou, un but partout, chaque club peut encore avancer avec un peu de chance. Paris Saint-Germain a défait Ajax 3-1 et Barcelone a laminé Apoel 4-0, dont un triplé de Lionel Messi qui a porté son total de buts en Ligue des Champions à 74.
Les Black Stars du Ghana auront bientôt un nouveau sélectionneur.
Il s'agit de l'Israélien Avram Grant qui sera confirmé demain pour succéder à Kwesi Appiah, remercié en septembre. C'est ce qu'a annoncé la Fédération ghanéenne de football. Actuellement directeur technique d'un club de Bangkok, Grant a été sélectionneur d'Israël et est également passé par Chelsea, West Ham et Partizan Belgrade.
Et pour terminer, la NBA, le championnat de basketball nord-américain, hier soir, Atlanta a défait Washington 106-102. Pas de succès pour Miami qui est donc tombé face aux Golden State Warriors 97-114. Peu de chance pour les Pistons de Détroit battus par les Bucks de Milwaukee 98-86. Et puis enfin, les Sacramento Kings ont eu raison des Pelicans de New Orleans 89-99. Après les sports, la musique maintenant avec Roger Moutou. Bonjour Roger.
Bonjour Bagassi. Comme Fela, hein, qui avait fondé Kalakuta Republic, Papa Wemba créa en 1977 dans sa cour familiale de Matongé à Kinshasa le village de Molokai, une sorte de copie d'un village africain avec ses règles et ses codes dont il s'introduisa lui-même symboliquement chef coutumier. Mais sa démarche n'était pas politiquement comparable à celle de Fela au Nigeria car il n'a jamais fait de l'activisme politique. Il travaille présentement sur un nouvel album, mais ce matin, nous l'écoutons dans Kema Fumbe.
C'est que le Sassé.
Matate, 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 matate.
Willy Opelela.
Foyle,
foyle,
foyle.
Alors Roger Papa Wemba bat le record de la longévité en matière de succès musical. L'enfant est nommé Papa parce qu'il est le fils aîné de sa mère.
Oui Bagassi, alors que Papa Wemba est encore bébé, la famille s'installe à Léopoldville, capitale du pays, alors colonie belge. Dès l'enfance, il cultive une voix ténor particulière et devient chanteur en suivant les traces de sa mère, une pleureuse professionnelle. À cause de sa voix, Bagassi y prend le pseudonyme de Jules Presley.
Papa Wemba, Kema Fumbe. Merci Roger.
De rien Bagassi, salutations à notre ami Yves Kambala à Kinshasa.
Roger Moutou que vous retrouvez dans RM Show, chaque jour à partir de 20h temps universel.
Mississippi Maman Awedi.
Boya fubu
o kota pela ki kumba
eh papi wemba liswa mokosi
lolé en bas
le gouverneur de Minnesota eh papa na queen bada
Henri Wanya
ya o motoro kakala lelega pa mi waya kene wamato washinya woyo ka pa mi sonyi
action zakoto
lanya le woke na kena di halalanya
Ekongolanya,
Loco Bela yo chanel mola yo tondo, nie maleto yo no homo ya no toche.
Choba,
akona bubu,
choba,
leki abutu,
choba,
wanya shangona meme bakato shalo bomba, wanya shangona meme bakato shawe fayo, no bomba chungora wanchone wa kongo, kongo lo bela lo bomba hero nacional, wemba no bato chanel mola yo tondo, bala wame sote de la kema fumbe, bala wame sote de la kema fumbe.
Kujikojo, Fekeson, le ministre colombien, Peter Paul.
Matayate Kasu, Matayate Kasu, Kena Kokoke, Kena Kokoke, Patate, Patate, Patate.
Jean-Paul Odeba,
Elola, Elola, Elola,
Ekabe,
Sangola Koka,
Sangola Koka,
Polidor Odeba,
Yoso Papa, Papa Nababetis,
Aile.
Robert Kiliba, l'homme capable, Papa Ouchoudi.
Voilà, Papa Wemba, c'est donc avec cette musique congolaise que s'achève le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Anne Albertson a assuré la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction de VOA Afrique. C'était Bagassi Koura au micro. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de la Voix de l'Amérique.